Il est maintenant 17h30 en temps universel, 20h30 à Jérusalem.
Le débat du jour. Diane Berger.
Le débat du jour aujourd'hui, guerre à Gaza, la société israélienne est-elle en train de se fissurer? Il y a eu depuis de longs mois les manifestations des proches des otages chaque semaine. Il y a maintenant un mouvement de colère au sein même des militaires israéliens, avec d'abord une lettre la semaine dernière des pilotes réservistes et vétérans de l'armée israélienne pour demander qu'on garantisse la libération des 59 otages toujours retenus par le Hamas, même si cela suppose de mettre fin à la guerre à Gaza. Ils ont été rejoints ensuite par ceux du corps des blindés, des parachutistes, même des vétérans du Mossad se sont manifestés pour critiquer la stratégie du gouvernement Netanyahou à Gaza. Faut-il alors y voir une bascule dans l'opinion publique israélienne? C'est l'une des questions que l'on va se poser ce soir. Pour en parler, nos trois invités, Caterina Bandini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse en sociologie, enseignante en sciences politiques à l'Université de Lille et membre du comité de rédaction de Yahani, blog qui recueille des analyses universitaires sur le contexte israélo-palestinien. En ligne également avec nous, Clotilde Mravko, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante, vous couvrez l'actualité au Proche-Orient pour plusieurs médias, notamment pour Le Monde et Mediapart, et vous avez entre autres couvert le mois dernier les manifestations contre le renvoi du chef du Shin Bet en Israël. Et puis nous sommes aussi avec Karine Lamarche, bonjour.
Bonjour.
Karine Lamarche, vous êtes chargée de recherche en sociologie au CNRS, membre du Centre Nantais de Sociologie, et vous avez notamment écrit le livre « Militer contre son camp, des Israéliens engagés aux côtés des Palestiniens ». C'est paru aux éditions PUF en 2013. Je vais d'abord me tourner vers vous, Karine Lamarche. Face aux prises de position des réservistes, Benjamin Netanyahou a affirmé que les critiques venaient d'un petit groupe de radicaux. Est-ce qu'on est en effet sur un mouvement limité porté par un petit groupe d'individus, ou est-ce que vous, vous y voyez le signe d'une tendance de fond dans la société israélienne?
Alors, c'est un mouvement qui, effectivement, émane de certaines factions de l'armée. Donc, qui a commencé avec une lettre des pilotes, vous l'avez dit, qui s'est étendue, qui a été repris par d'autres corps de l'armée israélienne, notamment de la marine, des médecins réservistes, puis par la suite d'ex-agents du Mossad. Donc ça concerne une partie quand même significative. Depuis là, quelques jours, les lettres s'enchaînent en fait. Mais voilà, effectivement, les critiques de Netanyahou, forcément, sont toujours, reviennent toujours à dire que ça vient d'un petit groupe de marginaux. Il les a traités d'anarchistes, ce qui est assez drôle quand on connaît un petit peu le profil de ces personnes qui ont signé ces lettres.
D'autant qu'elles n'ont pas non plus appelé à déserter. On n'est pas non plus sur de l'anarchisme, effectivement.
Tout à fait, ils n'ont ni appelé à déserter, ni appelé très franchement à arrêter la guerre. Ils ont appelé à mettre en avant la question des otages et à tout faire pour faire revenir les otages, y compris si ça devait impliquer d'arrêter la guerre, ce qui n'est effectivement pas la même chose.
Oui, alors je vais maintenant me tourner vers Caterina Bandini. Rappelons que la guerre a fait quand même en un an et demi plus de 51 000 morts côté palestinien. Ce sont des chiffres du Hamas, mais qui sont jugés crédibles par les Nations Unies. Est-ce une donnée qui est prise en compte dans la contestation de la stratégie militaire, ou est-ce que ce sont d'autres facteurs qui causent ce rejet que l'on voit chez les vétérans et chez les réservistes?
Absolument pas, absolument pas. Et donc je rejoins tout à fait ce que disait Karine Lamarche, c'est-à-dire la seule raison pour laquelle ces réservistes de l'armée appellent à arrêter la guerre, c'est la libération des otages. Et l'appel à l'arrêt de la guerre apparaît comme un moindre mal, en fait. S'il n'y a pas d'autre solution pour libérer les otages, il faut mettre un terme à cette guerre. Mais s'il y a bien une question face à laquelle la société israélienne ne se fissure absolument pas depuis 19 mois désormais, c'est justement l'invisibilisation quasiment totale, systémique, des Palestiniens et des Palestiniennes, en particulier des habitants et habitantes de Gaza, et toutes ces victimes civiles dont on conteste le fait que les chiffres soient vraiment réalistes, dont on conteste que ce soit vraiment des victimes civiles, etc. Parce que ça, c'est des arguments qui sont quand même très présents dans l'opinion publique et dans le discours politique israélien. Toutes ces personnes-là sont complètement invisibilisées et on est déshumanisé en fait dans ce processus d'invisibilisation. Donc, en réalité, il y a, de ce point de vue, une unité assez importante au sein de l'opinion publique israélienne qui continue de considérer cette guerre, qui est une guerre génocidaire, hein, qui est une guerre d'extermination, ça a été prouvé, dit et prouvé par de nombreux experts, continue de la considérer comme une guerre existentielle et en ce sens comme une guerre juste. Et donc, il y a vraiment une frange extrêmement marginale de la société juive israélienne qui s'y oppose pour des raisons, pour des raisons proprement politiques et d'humanité.
Oui, alors on va avoir l'occasion de revenir sur la manière dont les Israéliens perçoivent ce conflit à Gaza aujourd'hui. J'aimerais avant cela que l'on revienne sur quelque chose qui commence à se dessiner dans ce que vous décrivez. C'est que là, il s'agit donc de mettre la priorité sur la libération des otages, ce qui ne paraissait plus être le cas. C'était déjà une critique que faisaient beaucoup de proches des otages depuis de longs mois. Est-ce qu'il y a aussi, Katerina Bandini, une usure de la société israélienne, une usure notamment des réservistes?
Oui, certes, cela n'empêche pas de dire qu'il y a une usure, mais encore une fois, c'est une usure qui est déterminée, qui est causée par ce qui est considéré, notamment par ces réservistes de l'armée, comme une stratégie qui voit l'échec. Donc c'est vraiment l'usure de la guerre, c'est de dire on envoie nos enfants mourir à Gaza, ça ne ramène pas les otages à la maison, ça ne les libère pas, etc. Donc il y a une mauvaise stratégie militaire. Et donc c'est vraiment ça qui est remis en cause et qui est critiqué par ces réservistes. Pour vraiment faire comprendre ça, je pense que il est important de citer, pourrait citer plusieurs propos. D'ailleurs, nous avons publié avec Yann aujourd'hui, ce matin même, une story sur Instagram qui revient sur le contenu de certaines parmi ces lettres. Mais donc, dans la toute première, un des pilotes signataires a fait une déclaration plutôt choquante où il disait si l'armée israélienne avait décidé d'attaquer de nouveau Gaza, de tuer encore 4 ou 5 Mohamed là-bas, c'est vraiment comme ça qu'il s'est exprimé, elle aurait pu le faire après un accord sur les otages. Donc c'est vraiment cet élément-là qui cristallise ce que vous décrivez comme une usure qui est tout à fait présente, mais seulement pour cette raison-là.
Ouais, et Karine Lamarche, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que donc on est sur une contestation de la stratégie militaire liée à un peu d'usure, mais sur un fond où la guerre en elle-même n'est pas contestée?
Tout à fait. Je partage complètement les propos de Katerina Bandini. Effectivement, il n'y a absolument pas de place qui est faite au sort des Palestiniens, à ce qui se passe à Gaza, la destruction totale de toute possibilité d'organisation politique, de vie, à l'ampleur de la catastrophe humanitaire et politique qui est en train de se jouer. Ça, c'est absolument absent. Tout ce qui est mis en avant, c'est les otages. Les otages, uniquement les otages. Et de toute façon, voilà, donc tous les appels à cesser la guerre, à parvenir à un cessez-le-feu, ou ceux qui s'opposaient à la reprise des combats, sont uniquement le discours est uniquement centré sur cette question des otages, et à aucun moment la question humanitaire et la question morale et la question politique, la question palestinienne est présente. Donc ça, c'est effectivement extrêmement, extrêmement marquant. Et quand on lit, quand on regarde un petit peu les lettres qui ont été publiées, c'est évident, en fait. C'est vraiment en permanence cette question des otages qui est présente, et à aucun moment la question palestinienne qui, il faut le dire aussi, en Israël, parler de la question palestinienne immédiatement décrédibilise celui qui s'exprime. Ce qui n'est pas une manière de dire que forcément les signataires de ces lettres auraient souhaité parler de la question palestinienne et ne l'ont pas fait pour des questions stratégiques. Je pense que l'immense majorité d'entre eux n'est pas sensible à cette question-là, mais de fait, concrètement, cette question n'est pas exprimée, et c'est aussi révélateur d'une certaine atmosphère politique en Israël.
J'aimerais justement que l'on revienne sur cette atmosphère politique. Clotilde Mravko, vous qui avez couvert des manifestations contre Benjamin Netanyahou le mois dernier en Israël, comment qualifier l'état d'esprit des Israéliens que vous y avez rencontrés? Est-ce qu'ils correspondent à ce que l'on vient de décrire? Est-ce qu'ils sont dans une attitude très centrée sur Benjamin Netanyahou et sur les otages, mais assez peu sur la question palestinienne en tant que telle et sur la poursuite ou non de la guerre?
Oui, en fait, je pense qu'il faut vraiment distinguer deux choses, ces deux éléments très différents. C'est-à-dire que les Israéliens qui sont descendus dans la rue ces dernières semaines en grand nombre, mais qui étaient déjà dans les rues de Tel Aviv et de Jérusalem depuis des mois, ce sont en fait des Israéliens qui combattent Benjamin Netanyahou, qui combattent son gouvernement, qui est, je rappelle, à l'extrême droite, qui est composé même de ministres suprémacistes juifs. Et là, ce qui est un peu cristallisé ces derniers temps, c'est à la fois la reprise de la guerre à Gaza, mais surtout le fait que Benjamin Netanyahou s'en est pris au chef du Shin Bet, qu'il a voulu, Ronen Bar, qu'il a voulu limoger. Donc ça, c'est en, c'est en cours encore aujourd'hui. La bataille se joue maintenant à la Cour suprême. Et puis, on a également, en fait, Benjamin Netanyahou qui a repris en main la guerre à Gaza, notamment parce que le chef d'état-major a changé depuis le 6 mars. Désormais, c'est Eyal Zamir, qui est perçu quand même un peu plus comme quelqu'un qui est à la botte de Benjamin Netanyahou. Et puis surtout, il a changé son ministre de la Défense. Yoav Gallant, le précédent ministre de la Défense, est défendu par la plupart des manifestants dans les rues de Tel Aviv et de Jérusalem. Yoav Gallant, qui, je rappelle, est quand même poursuivi, qui a un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crime de guerre à Gaza. Et puis, il a été changé pour Israël Katz, qui est le nouveau donc ministre de la Défense, qui est vraiment perçu lui par l'opinion israélienne comme quelqu'un qui obéit au doigt et à l'œil au premier ministre israélien. Donc on a aujourd'hui en fait un champ qui s'est ouvert pour Benjamin Netanyahou avec l'appui aussi du président américain Donald Trump, qui fait que les Israéliens savent que désormais il a les pleines cartes en main pour faire ce qu'il veut à Gaza. Et on a cette contestation des Israéliens qui s'est exprimée depuis des mois déjà contre Benjamin Netanyahou, mais ça ne veut pas dire que c'est une contestation contre la guerre à Gaza, contre la politique qui est menée contre les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie. Ça, c'est complètement mis de côté dans les manifestations.
Oui, c'est mis de côté dans les manifestations. Et est-ce que même dans l'univers médiatique des Israéliens, est-ce que dans les journaux, est-ce que c'est quelque chose auquel ils ont accès? Est-ce que c'est quelque chose dont on parle, comme on en parle dans les médias européens en ce moment?
On n'en parle pas du tout dans les mêmes termes, bien évidemment, mais il y a quand même des journaux en Israël comme Haaretz qui en parlent largement, qui aujourd'hui ont quand même une couverture de ce qui se passe à Gaza qui est beaucoup plus exhaustive parfois même que les journaux en Europe. On a des débats, mais il est sûr que dans le débat public israélien, de toute manière, il y a vraiment cette perception que Gaza est perçu comme une menace sécuritaire avant tout, et donc les Israéliens ne voient pas les victimes à Gaza ou les Palestiniens comme des victimes de la guerre, mais bien comme de potentielles menaces sécuritaires. Et la preuve en est qu'en fait, la plupart d'entre eux, depuis notamment le 7 octobre, par exemple, dans une des manifestations à laquelle j'étais à Jérusalem, quand je lui dis, mais alors du coup, quand je dis à une manifestante, mais alors du coup, est-ce que vous avez une pensée quand même? Est-ce que vous êtes là ici aussi parce qu'il y a des Palestiniens qui meurent tous les jours sous les bombes à Gaza? Et elle m'a dit non, depuis le 7 octobre, je n'arrive pas à avoir de l'empathie pour les Palestiniens à Gaza.
Oui, et Caterina Bandini évoquait le fait que, au milieu de toutes les fractures qui peuvent exister dans la société israélienne, qui ne sont pas nouvelles, il y a quand même quelque chose qui fait unité en quelque sorte, c'est ce regard justement, ou cette absence de regard posé sur la vie des Palestiniens et des Palestiniennes. Est-ce que vous partagez ce constat? Est-ce que c'est ça ce qui aujourd'hui fait d'une certaine manière l'unité, ou en tout cas une forme d'unité chez les Israéliens?
Oui, clairement. En fait, la société israélienne est très fracturée sur plein d'autres sujets, notamment le service militaire, la religion, la place de la religion dans l'État, etc. Mais ils sont réunis vraiment par des ennemis communs. Donc, par ennemis, j'entends d'abord les Palestiniens, mais aussi, en fait, ils perçoivent d'autres pays de la région, la Syrie, le Hezbollah libanais, comme d'autant de menaces sécuritaires qui en fait, les unissent contre ces menaces. Et puis, c'est quand même intéressant aussi de se rendre compte qu'en fait, depuis le 7 octobre et la guerre à Gaza, les Israéliens en fait ont été très touchés dans la société. Oui. Il y a vraiment un traumatisme du 7 octobre, et donc c'est autour de ce traumatisme-là qu'ils se sont réunis. Et donc aujourd'hui, par exemple, quand on voit les discours politiques de l'opposition à Benjamin Netanyahou, de ceux qui devraient pouvoir prendre le pouvoir si jamais les manifestants arrivaient à renverser Benjamin Netanyahou, ce sont en fait sur la question de la Palestine, sur la question des territoires palestiniens, sur la question des négociations politiques à mener avec l'autorité palestinienne ou le Hamas, sur la question des frontières d'Israël. En fait, on est vraiment sur des discours qui sont très, très, très similaires. Il n'y a quasiment pas de point de dissension sur ces points-là. Les points de dissension se trouvent vraiment ailleurs, sur l'état de droit, les institutions en Israël, sur d'autres sujets, mais quasiment pas sur les Palestiniens.
Il est 19h15 à Paris, 10h45, excusez-moi, à Paris, 20h maintenant, 46 à Jérusalem. Une question au programme de ce débat. Guerre à Gaza, la société israélienne est-elle en train de se fissurer? Pour en parler, nous sommes en ligne avec Caterina Bandini, chercheuse en sociologie à l'Université de Lille, Karine Lamarche, membre du Centre Nantais de Sociologie, et Clotilde Mravko, journaliste indépendante qui couvre pour plusieurs médias le Proche-Orient, notamment l'actualité israélienne. On a commencé donc à dresser le portrait d'un pays effectivement avec ses fractures, mais où finalement il y a un relatif consensus sur la poursuite de la guerre à Gaza, même si on le voit depuis plusieurs jours, il y a des critiques venant des réservistes sur la manière de faire, sur les priorités, un accent que certains souhaiteraient mettre sur la libération des otages. Karine Lamarche, est-ce que aujourd'hui, dans le paysage politique, il y a des forces qui peuvent éventuellement porter ce discours critique au-delà donc de simples lettres publiées dans les médias? Est-ce qu'il y a des partis ou des personnalités qui pourraient amener ce discours à prendre de l'ampleur face au gouvernement Netanyahou?
Je pense que, comme vient de le dire Clotilde Mravko, en fait, il n'y a pas de force politique actuellement en Israël qui place la question palestinienne au centre de l'agenda politique. Il n'y en a tout simplement pas. Donc effectivement, là, on voit un mouvement de contestation émergent. Mais quelle place ça peut prendre, comment ça peut se concrétiser politiquement, là, à l'heure actuelle, c'est très difficile à dire, parce que aucun homme ou aucune femme politique israélienne ne parle de la question palestinienne et de ce qui se passe à Gaza en termes humains, humanitaires, politiques, etc. La seule contestation là qu'on voit actuellement, c'est encore une fois sur cette question des otages et sur la question de Netanyahou, qui effectivement l'opposition à Netanyahou, elle est présente, elle est pas récente, c'est quelque chose qui existe depuis des années, puisqu'il y avait eu un mouvement, déjà le mouvement Balfour, il y a plusieurs années, qui visait directement Netanyahou en raison de ses affaires judiciaires et pour sa mauvaise gestion de la crise du Covid. Par la suite, il y a eu ce mouvement contre la réforme judiciaire en 2023, où il était aussi au centre des critiques. Et puis là, de nouveau, il se retrouve au centre pour sa mauvaise gestion, entre guillemets, de la situation actuelle et le fait qu'il ne ramène pas les otages en Israël. Donc effectivement, la question de Netanyahou, elle est très clivante, mais qui pour prendre la suite ou pour proposer une alternative politique, là, à l'heure actuelle, c'est loin d'être évident.
Et est-ce que, en tout cas, ces critiques des réservistes que l'on voit se multiplier depuis plusieurs jours, cela peut mettre le gouvernement Netanyahou sous pression d'une manière qui pourrait amener, non pas à une fin de la guerre, mais une inflexion? Est-ce que ça peut avoir un effet?
Alors l'effet, il se mesure difficilement pour l'instant. Ce qu'on voit, c'est que l'armée a commencé un petit peu à mobiliser plus de soldats en service obligatoire.
Oui, ceux qui ne sont pas réservistes.
Voilà, ceux qui ne sont pas réservistes, pour compenser un peu le fait que, effectivement, dans les rangs des réservistes, il y a quand même une fatigue qui s'installe et il y a ce mouvement de contestation qui prend de l'ampleur. Donc, du coup, pour compenser ça, l'armée va chercher, mettre peut-être plus sur le front des soldats qui sont en service obligatoire, qui ont moins d'expérience militaire.
Et moins de possibilités peut-être de contester.
Et moins de possibilités, effectivement, de contester ou de s'opposer, d'éviter de servir ou d'avoir ce type d'initiative politique de signature de lettres, etc. Après, la pression, elle viendra ou elle ne viendra pas, je pense, de Donald Trump. Et c'est un des leviers qui sera éventuellement activé. Mais là, concrètement, de la part du gouvernement, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à attendre d'un mouvement comme celui de ces réservistes et de ces vétérans de l'armée. Mais ça fait quand même bouger un petit peu les choses. C'est-à-dire que, concrètement, ils sont obligés de réagir, ils sont obligés de se positionner, ils sont obligés de les condamner. Et on voit bien qu'il y a quand même un malaise vis-à-vis de cette contestation qui vient de personnes qui, quoi qu'en disent Netanyahou et ses alliés, sont quand même extrêmement légitimes, on va dire, en termes israéliens, puisque ce sont des personnes qui ont une expérience militaire, etc., et qui ont prouvé de différentes manières leur, entre guillemets, loyauté envers le système, le régime israélien.
Et Caterina Bandini, j'aimerais vous donner une citation que j'ai trouvée dans le journal Le Monde d'un député, Matan Kahana, membre du Parti de l'Unité Nationale, qui dit « Depuis le 7 octobre, la société a changé. Chacun fait un pas de plus vers la droite, mais Netanyahou ne travaille pas à unifier la société, c'est même tout le contraire. Seuls les extrémistes se font entendre dans les médias et sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, en Israël, on arrive à être audible avec un discours modéré ou nuancé, où il ne reste plus qu'un espace pour une minorité très en colère et des voix qui vont complètement dans le sens de Benjamin Netanyahou ?
C'est une question intéressante, c'est-à-dire effectivement ce qu'on voit c'est que finalement cette guerre Netanyahou il a poursuit aussi et peut-être surtout pour des intérêts qui sont extrêmement personnels en fait et donc ça soulève des critiques aux extrêmes, et des critiques qui sont très, qui sont très virulentes envers lui. Je voulais d'ailleurs très brièvement revenir sur ce qui a été dit, qui me paraît très juste dans le sens où ces manifestations qu'on voit aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui, on assiste à une intensification de ces mouvements, de ces mobilisations qui s'inscrivent en réalité dans une continuité. Et cette continuité, cette filiation, c'est pas du tout la filiation de, je sais pas moi, de ce qu'a pu être ce qu'on appelait le camp de la paix israélien dans les années 80, qui était par ailleurs très, porteur de plein de contradictions, de paradoxes, peu importe, mais en tout cas qui plaçait vraiment la question palestinienne au cœur, ou en tout cas d'une entente, on va dire, entre Israéliens et Palestiniens au cœur de ces revendications. C'est pas du tout dans cette filiation-là, mais c'est plutôt justement dans cette filiation de la contestation du gouvernement Netanyahou, de sa politique et de sa politique, comme je le disais, de poursuite d'intérêts personnels. Faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a des procès en cours pour des affaires de corruption très graves, etc. Et que maintenir cet état de guerre, en fait, est tout à fait dans son intérêt pour ces raisons-là aussi. Donc finalement, c'est dans cette généalogie-là que tout ce qui se passe aujourd'hui s'inscrit et ça laisse peu de place, je dirais, pour un discours critique qui soit un discours qui prenne en compte aussi les autres aspects de la question, mais c'est un discours qui se focalise exclusivement sur Netanyahou, son gouvernement et sa politique. Voilà. Après, il y a, comme je le disais au début, il y a effectivement une toute petite minorité, une frange très marginale de la population que l'on peut classer à la gauche radicale. On la classe à la gauche radicale pour tout un tas de raisons, parce que parce que c'est un milieu qui est antimilitariste et ça c'est vraiment un positionnement très très considéré très radical en Israël, où même le mouvement pacifiste n'a jamais été antimilitariste, et qui place vraiment au cœur la question palestinienne, mais dans le sens où ce sont les Palestiniens qui doivent décider comment mettre en place leur libération, et les Israéliens sont là pour les soutenir. Or, on peut, donc ça c'est vraiment très radical et très minoritaire en Israël. On pourrait se dire que ailleurs, dans un autre pays, en fait, le fait de tenir ce genre de propos serait tout simplement une position, une position critique, finalement.
De gauche radicale.
Voilà, pas forcément
de la gauche modérée, c'est ce que vous
radicale.
Dire.
Par exemple, le fait, ou de la gauche tout court, c'est-à-dire le fait de, par exemple, se dire antinationaliste, c'est pas forcément quelque chose qui est considéré de gauche radicale dans un autre pays. Or, en Israël, le fait de se dire antinationaliste revient à se dire antisioniste, et c'est un discours absolument inaudible. Et je partage, je ne sais plus si c'était Clotilde Mravko ou Karine Lamarche qui l'a dit tout à l'heure, le fait que le trauma du 7 octobre a, de ce point de vue-là, soudé encore davantage la population autour de l'idéologie sioniste et de tout ce qu'elle représente. Et donc, des discours, parler de la question palestinienne, c'était déjà très compliqué avant, et depuis, ça décrédibilise complètement les locuteurs et les locutrices, parce que ça revient en fait à affirmer une forme de solidarité avec les attaques du 7 octobre.
Ouais, Clotilde Mravko, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, en Israël, il est extrêmement dur de porter un discours nuancé, que l'espace de débat, l'espace médiatique, l'espace politique est complètement, en quelque sorte, anesthésié, saturé par Benjamin Netanyahou et son gouvernement ?
Anesthésie, je pense que c'est un mot qui effectivement rend compte un peu de ce qui s'est passé. Alors là, en fait, du coup, moi, j'ai l'impression plutôt, je suis pas vraiment d'accord avec ce que disait ce député israélien, parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu, en gros, une contestation assez forte, très forte même, dans la rue avant le 7 octobre contre la réforme judiciaire. Il y a eu la guerre qui a en fait lissé après le 7 octobre. On a vu la société israélienne qui s'est rassemblée comme un seul homme, qui a oublié en fait les responsabilités du gouvernement Netanyahou dans l'échec du sécuritaire du 7 octobre, qui a oublié les dissensions autour de la réforme judiciaire et qui s'est vraiment inscrit comme un seul homme pour défendre son pays et lancer une guerre absolument brutale avec des massacres à Gaza sans poser aucune question à ce moment-là. Et là, en fait, après un an et demi, on commence à voir une société qui, de nouveau, un champ politique plutôt, je dirais, qui de nouveau se fissure entre Netanyahou d'un côté et ses opposants de l'autre. Mais encore une fois, je pense que c'est intéressant de revenir aussi sur le temps long et de voir qu'en fait, en 2019...
En quelques mots, parce que la fin du débat approche malheureusement.
En 2019, jusqu'au retour de Benjamin Netanyahou fin 2022, en fait, Israël a connu une série d'élections où le pays en fait essayait de se débarrasser de Benjamin Netanyahou, mais n'y arrivait pas. Et en fait, aucun des gouvernements qui a voulu rejeter Benjamin Netanyahou n'a en fait réussi à rester au pouvoir pour une durée suffisante. Et donc, c'est bien la preuve qu'aujourd'hui encore, même si le champ politique est divisé entre les opposants et les supporters à Benjamin Netanyahou, pour l'instant, il est au pouvoir, il a la majorité, il va même réussir à faire voter son budget au Parlement.
Merci beaucoup Clotilde Mravko, je le rappelle, vous êtes journaliste notamment pour Le Monde et Mediapart. Merci aussi Caterina Bandini, chercheuse en sociologie à l'Université de Lille, membre du comité de rédaction de Yanni, et Karine Lamarche, chargée de recherche en sociologie au CNRS et membre du Centre Nantais de Sociologie. Dans quelques instants, un nouveau grand journal international, suivi une demi-heure plus tard d'Afrique Soir, avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Diane.
Quel sera le programme ?
Eh bien, nous allons parler du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo, puisque le médiateur de l'Union africaine dans cette crise, le président du Togo, Fornia Singbe, est arrivé tout à l'heure à Kinshasa, la capitale de la RDC. Nous appellerons notre correspondante. Autre visite qui marque le réchauffement diplomatique entre le Nigeria et le Niger. Le ministre nigérian des Affaires étrangères est en visite chez son voisin à Niamey, la première d'un officiel nigérian depuis le coup d'État qui a renversé en 2023 le président élu Mohamed Bazoum. Soirée football sur RFI avec la suite des quarts de finale retour de la Ligue des Champions. À l'affiche, le Real Madrid opposé à Arsenal, une affiche qui a des allures de finale. Déjà, Diane, le Real de Kylian Mbappé qui a 3 buts de retard, va-t-il réussir la remontada ? Réponse ce soir. Et puis autre quart de finale, l'Inter Milan face au Bayern. Une soirée à suivre en intégralité sur Radio France Internationale.
Merci beaucoup Sylvie Berruet, à tout à l'heure.